Bonjour à tous. Patricia Montaud, l'épouse de Bernard Montaud, est aussi héritière de l'enseignement des dialogues avec l'ange transmis par Gita Malas. Elle a fondé son association, les Amis de Gita Malas, dans laquelle elle propose sa propre manière de retransmettre cette expérience des dialogues, pour apprendre, dit-elle, à passer de la lecture de ce livre à ses propres dialogues. Elle est mon invitée aujourd'hui dans l'émission À chaque fois. Bonjour Patricia.
Et bonjour à Radio Intuition et à tous ses auditeurs.
Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce que votre association Les Amis de Gita Malas, elle apporte de plus au livre des dialogues avec l'ange, qui est déjà en lui-même tout un chemin spirituel concentré?
Alors, je ne dirais pas qu'elle apporte quelque chose de plus, elle apporte quelque chose, une autre version, une autre lecture. Je crois que chacun de nous rencontre ce livre à travers ses propres manques et que ce livre vient combler quelque chose qu'ensuite on passe sa vie à retransmettre. Et il se trouve que moi j'ai rencontré et vécu avec Gita Malas et c'est elle qui m'a fait passer d'une lecture un peu complexe des dialogues à la pratique de mes propres dialogues. Et donc, elle a inventé pour Bernard et pour moi, pour Bernard, mon époux, donc, des formes de dialogue qui correspondaient à nos difficultés. Et elle m'a dit, un jour, tu trouveras ta propre forme de dialogue et c'est ça que tu enseigneras aux hommes. Voilà.
Alors, j'ai envie de vous demander aussi la question de l'utilité des dialogues, parce qu'on pourrait se demander finalement à quoi ça sert de dialoguer. Et est-ce qu'il y a des différentes fonctions ou est-ce qu'il y aurait des différents niveaux de dialogue?
Mais je crois qu'on a tous le sentiment que notre vie pourrait être meilleure. Même si notre vie va bien, on pressent qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, que nous-mêmes on pourrait être meilleurs. Et que le premier niveau de dialogue, il est un dialogue personnel avec la possibilité que nous avons d'être meilleur père, d'être meilleur mari, d'être meilleur professionnel. Et ce premier niveau de dialogue nous aide à bien vivre avec nous-mêmes dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est le premier niveau. Une fois que notre vie est en ordre, il nous manque quand même toujours quelque chose. Et là commence le magnifique rendez-vous avec notre légende personnelle ou avec notre tâche. Parce qu'on pressent tous au fond de nous que bon, la vie que nous avons ne peut pas s'arrêter qu'à cette vie. Elle doit servir à quelque chose. C'est pas possible que nous soyons sur cette terre sans servir à quelque chose. Et ce deuxième niveau de dialogue, si on a un ange gardien, c'est il est gardien de ce pourquoi nous sommes faits. Et si nous oublions de l'interroger, nous nous retrouvons orphelins d'une tâche ou d'une cause qui nous attendait.
Notre question.
Ah, je vous en ai bouché un coin là.
Oui. Du coup, je cherchais quelque chose à dire. Alors bon, ben là, je n'ai plus rien à répondre. Alors la question suivante, ça sera sur ce que vous proposez dans cette association. Vous proposez des groupes de lecture et des groupes dialogue. Quelle est la particularité de chacune de ces deux approches?
Alors, les groupes de lecture vivante, je les appelle de lecture vivante, ils sont un rendez-vous avec le livre et le contenu de cet enseignement. Et nous sommes toute une équipe à avoir rassemblé tout ce que Gita a pu dire dans ses conférences, dans des livres, sur chaque entretien. Et donc, les personnes qui sont intéressées se retrouvent une fois par mois, entretien après entretien, avec l'expérience d'essayer eux-mêmes de comprendre et d'entendre ce qui est dit dans chaque entretien. Et ensuite, dans un deuxième temps, il leur est offert la version de Gita et la version de Patricia. Gita Malas, Patricia Montaud, comme plusieurs versions d'un même entretien. Et il termine la soirée avec « Mais qu'est-ce que j'ai appris ?» et « À quoi ce que j'ai appris va servir ma vie ?» Donc on repart toujours de toute façon, c'est ma particularité, ce n'est pas possible de lire sans que ça serve notre quotidien. Après, on a des groupes dialogue où là, on s'entraide collectivement. Après avoir tenté un dialogue individuel, on est arrivé, bon an, mal an, jusqu'à un certain endroit de dialogue. Et après, on a besoin des autres pour aller plus loin. Et c'est ce que les quatre amis ont vécu, c'est ce que nous avons vécu avec Gita, cette entraide qui se stimule, qui essaye pour l'autre de trouver à l'intérieur de soi des réponses en vérité pour l'aider. Donc c'est un jeu de questions-réponses avec un dialogue, au départ un dialogue miroir avec le livre.
Oui, et justement, j'allais venir au dialogue, au fameux dialogue miroir, et j'aimerais que vous nous présentiez cette forme de dialogue qui vous est aussi particulière et que vous avez développée. En quoi consiste-t-il ?
Oui, je crois que j'étais quelqu'un d'un peu trop sérieux. Alors, dialoguer à ma table avec le stylo à la main, je crois que ça ne m'allait pas. Et un jour, j'ai été prise par surprise dans un dialogue avec la nature, parce que finalement, tout ce que l'on voit dehors nous touche, tout ce qui nous touche, soit parce que ça nous agace, soit parce qu'on est bouleversé d'amour, ça parle toujours de nous. Encore faut-il savoir à quel endroit cela parle de nous. Et que ce soit la nature, que ce soit la lecture d'un livre, que ce soit notre époux, nos enfants, on peut faire de tout le miroir de nous-mêmes. Alors j'ai créé une forme en quatre étapes de dialogue. Qu'est-ce qui me touche dehors ? Ah ben cet arbre est magnifique, il a... Oh ben même si c'est l'hiver, il continue quand même à donner quoi. Hein ? Où est-ce que ça me touche exactement ? Alors on essaye d'extraire en une phrase ce qui nous touche. Où est-ce que ça parle de moi ? Il nous revient toujours un aspect de nous aujourd'hui. Et où est-ce que ça parle de moi exactement ? Ça y est, on a fait le lien entre le dehors et le dedans jusqu'à découvrir un pan de soi-même qu'on n'avait pas vu, un pan d'imperfection qui nous ouvrira la porte vers un acte dans le secteur que nous avons perçu dans ce dialogue. Après, je sais, il faut le pratiquer pour que ça soit plus clair.
Oui, oui, mais évoquer justement l'imperfection, c'est toujours, un lien avec cette fameuse phrase des dialogues. La nouvelle perfection, c'est l'imperfection heureuse.
Ah, mais cette phrase, elle est magnifique. C'est vrai que quand on vit avec Gita, au départ, on pense que l'imperfection heureuse, c'est quand même une perfection, quoi. Et il faut vivre à côté d'un imparfait heureux qui est une race qui est vraiment très très rare pour s'apercevoir que c'est vraiment qu'on reste imparfait jusqu'à la fin de nos jours. Que la seule différence entre elle et nous, c'était que elle vivait bien avec ses imperfections. Elle en souriait comme si elle se prenait dans ses propres bras et que plus rien n'avait d'importance et tout à coup, elle était royale. Et que nous, enfin, je parle de moi, un quotidien où on se bat sans arrêt contre soi, parce qu'on se juge sans arrêt. C'est un quotidien qui se rate, qui passe à côté de la vie. Il suffit, l'homme, s'il a un seul choix, c'est bien vivre ou mal vivre avec son histoire, avec lui-même. Et c'est tout un apprentissage que chaque voie spirituelle propose. Et les dialogues avec l'ange, c'est une version de cette démarche intérieure d'amour pour soi.
Et justement, à propos de démarches d'amour, j'ai vu que donc vous proposiez aussi des week-ends à thème au Centre des Amis de Gita Malas et que le prochain avait pour thème « Transformer ses jugements en amour ». Donc, quel beau thème !
Alors, le prochain, il est donc en janvier. Oui, c'est une chose de parler d'être un parfait heureux et puis c'est une autre de se retrouver. Et alors, moi, j'ai les moyens de créer plein de miroirs qui permettent à chacun de se voir, d'être face à son imperfection et puis de faire la route pour s'aimer. Et chaque fois, c'est, comme disait Gita, entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes vraiment, il y a quelque chose qui est très dégrisant, qui n'est pas grisant, qui est dégrisant. Et qu'ensuite, nous avons à faire la route pour pouvoir embrasser cette misère, cette imperfection qu'on vient de voir. Finalement, s'il n'y avait qu'une seule route qu'on voit de partout, c'est se voir, s'aimer, et puis agir au lieu de réagir. C'est au lieu de se juger, se donner le droit à ce que nous sommes. Mais bon, on met une petite décennie pour y arriver tranquillement. Oui. Uniquement parce qu'on espère toujours qu'un jour, il y aura bien un chemin spirituel qui va nous rendre parfaits. On se lèvera un jour, un matin, en n'ayant rien à faire, parce qu'on n'aura plus de problème. Et tant qu'on a cette espérance au fond du cœur, on ne commence pas à retrousser ses manches pour y aller. Pour y aller dans une route d'amour où on va passer sa vie à apprendre à aimer de mieux en mieux. Et ça, c'est ça fait passer toutes ces imperfections du côté un peu négatif à un côté positif, parce que derrière chaque imperfection aimée se cache vraiment une de nos qualités qu'on ignorait avant. On se découvre magnifique, beau. Mon époux, quand on lui demande c'est quoi être grand, il répond c'est s'aimer petit. La grandeur, c'est aimer sa petitesse. La beauté, c'est aimer sa laideur. Et je crois que c'est vraiment un tel héroïsme ordinaire que de réussir à s'aimer même là où on est mesquin, là où on n'est pas beau, là où on ne s'aime pas du tout. Voilà la seule école qui puisse nous conduire un jour à découvrir notre légende personnelle. Je vous en ai bouché un coin.
Oui.
Je vous sens perplexe.
J'avais envie de rebondir sur le fait que vous disiez d'arriver à aimer le moins beau de nous, le plus mesquin, et que ça pouvait aussi nous aider pour accepter après les autres tels qu'ils sont.
Oui, alors peut-être que je vais vous dire un moment pour moi qui a été très fort. C'est devenu ma vie, puisque on n'arrête pas de dire « il n'a pas le droit, il devrait être autrement ». Et puis, on pourrait renverser les choses pour essayer d'innocenter l'autre. « Il a le droit, il a le droit ». Et il se trouve que l'année dernière, il me revient là un exemple. Le concret aide toujours. C'était les 90 ans de ma maman. Et mon époux me dit, il faut vraiment qu'on lui fasse quelque chose d'exceptionnel, parce que sa maman le mérite, et puis voilà, à cet âge. Et il a l'idée de lui offrir une croisière dans laquelle on serait nous aussi. On part avec ma sœur. Alors vraiment, c'est le cadeau, ma maman qui n'est jamais sortie de son petit village. Et une croisière, c'est vraiment le top du top. Et dès le départ, elle ne sourit pas. Dès le départ, j'ai l'impression qu'elle n'est pas contente. Et moi, je suis au milieu des deux, entre mon mari qui a fait tout ça pour elle. On a pris du temps pour elle. Et puis, ma maman qui ne remercie même pas rien. Et le lendemain, j'ai une angine, évidemment. Et je me dis, là, allez, il se passe quelque chose. J'étais entre les deux. Et j'ai commencé à faire « Elle a le droit ». Je crois qu'il suffit d'oser cette route pour innocenter l'autre au lieu de continuer à penser du mal, de l'accuser. Et je me suis dit « Elle a le droit de ne pas savoir bien remercier. Elle a le droit de trouver que ce cadeau, il est tellement grand pour elle qu'elle est mal à l'aise. Elle a le droit, elle qui n'est jamais sortie, de trouver que ce luxe est tellement écrasant pour elle qu'elle ne sait plus où se mettre. Alors, passer d'une maman qui pourrait quand même, maman, remercier quoi, tu pourrais quand même sourire, dire que tu es contente, à tout à coup découvrir que sa maman est peut-être mal à l'aise. C'est un monde. En quelques phrases, on a traversé l'univers. Alors, je suis allée voir ma maman en lui disant « Mais alors, c'est pas trop difficile pour toi d'être au milieu de tout ça ? Oh, c'est quand même brillant ici, hein ? Il y a plein de trop jolies moquettes, trop des gens bien habillés. Alors, finalement, on lui a fait, à l'intérieur de cette croisière, une croisière rien qu'à elle, en trouvant des petits lieux plus discrets. On a réussi. Pendant que tout le monde était parti, on se retrouvait. Et à la fin de cette semaine, elle a dit à Bernard, mais même à ta maman, tu n'aurais pas fait un cadeau plus joli. Et j'ai échappé, avec mon angine commençante, on a échappé à une petite guerre qui se tramait de reproche en reproche, et ça s'est transformé en une ovation d'amour, la même croisière. Je crois que c'est ça, le rendez-vous que nous avons. C'est on passe notre temps dans le bas de nous-mêmes à dire du mal de nous, à penser du mal, tous ces jugements, et tu n'y arriveras pas, et t'as encore pas fait ça, et tu pourrais faire mieux. Donc c'est passé, on a le droit, c'est plus fort que nous, c'est notre histoire. Mais effectuer ce passage de celui ou celle qui pense du mal de lui, mais après il va penser du mal des autres et du monde, à celui qui va tenter de penser du bien de lui, de penser du bien de l'autre et de penser du bien du monde. Je crois que c'est le résumé du passage du bas de nous-mêmes au sommet d'une humanité possible.
Magnifique, magnifique témoignage. Très, très beau, très beau. Alors maintenant, ben, je vais rappeler, on va revenir un petit peu sur votre site et on pourrait peut-être proposer les coordonnées du site. Donc,
Oui, vous êtes loin quand même, vous. Mais
parce que
voilà, on peut toujours aller visiter le site ou voilà.
D'après ce que j'ai vu, vous aviez des, y a des auditeurs de toute façon qui nous écoutent un petit peu partout, mais j'ai vu que vous aussi, vous avez des groupes dialogue un petit peu partout dans
Oui, mais pas
le monde.
encore à Marie-Galante.
Voilà. Pas encore. Mais en tout cas, peut-être que cette interview donnera des idées. Alors, le site, c'est donc lesamisdeguitamalas.org. C'est bien ça?
Oui.
.org.
Et puis nous avons un Facebook
Une page Facebook
aussi.
aussi? Ah oui,
Page Facebook.
d'accord. Donc voilà, pour vous rejoindre, pour vous contacter. Et puis voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Il y a aussi un livre que vous avez écrit, dont on n'a pas parlé. Vous avez
Oui.
coécrit avec Bernard Montois, votre mari, donc dialoguer avec son ange, et qui était le point de départ de cette association.
Oui. Parce qu'à un moment donné, vraiment, ce qui fait le démarrage de cette association, c'est le fait de rencontrer un grand nombre de lecteurs qui ouvraient le livre au hasard et disaient « Oh, oh là là, mais qu'est-ce que ça me parle !» Et puis ils le refermaient. Et quand je leur demandais « Mais ça vous parle de quoi ?»« Ah non, mais ça me parle si vous saviez !» Mais une fois que le livre était refermé, ça changeait rien à leur vie. Et je me suis vraiment dit, mais mon Dieu, si aujourd'hui je devais mourir, tout ce que Gita m'a apporté, ça mourrait avec moi, parce qu'ils ne savent pas qu'on peut passer de cette lecture à ses propres dialogues. Et ça a été, pour mon époux et moi-même, 15 ans après le départ de Gita, le rendez-vous de mettre par écrit tout ce qu'elle nous avait enseigné. Alors, c'est beaucoup d'intimité dévoilée dans ce livre, c'est toute notre route. Et ça a été une aventure risquée de l'écrire et une belle rencontre avec mon époux parce que c'est le premier qu'on écrit ensemble.
Il y en a eu d'autres?
Eh bien, depuis, non.
D'accord.
Non.
Donc c'est le
Le
premier.
prochain, je vais l'écrire toute seule.
D'accord. Eh bien, je vous remercie, Patricia, pour ce partage. Et puis je vous dis, belle route avec l'association Les Amis de Gita Malas.
Et vous, alors, incroyable rendez-vous que les auditeurs peuvent avoir avec la France, l'Europe, le monde entier, grâce aux endroits où vous-même vous êtes touchés. Merci de leur faire partager vos propres émois.
Au revoir, Patricia.
Et bonne fête de Noël.
Merci. Eh bien, ça sera le petit cadeau, cette interview.
Au revoir à
Au
tous.
revoir.